Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi donc de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats et les analyses sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez également laisser vos commentaires. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous nos auditeurs de la VOA Afrique.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc d'ici là, on va retrouver Amdine Si dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Mais en attendant, en tout cas, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons de football ce soir avec le dénouement donc des matchs de la phase de poule des compétitions interclubs. On connaît les qualifiés pour les quarts de finale en Ligue des Champions comme en Ligue CAF. On va aussi parler de cette bataille entre 5 pays en lice, bien sûr, pour l'accueil de la CAN 2025. Eh bien, ce sera en seconde partie de cette émission. Mais en attendant, Ligue des Champions, donc, pour commencer, Al-Ahly du Caire a décroché le dernier billet pour les quarts après sa nette victoire 3-0 sur les Soudanais, d'Al-Hilal. Ce résultat permet aux Égyptiens de prendre la deuxième place donc, du groupe B derrière les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns qui ont battu les Camerounais de Coton Sport 2-1. Allez, Élisée, je commence par vous. Les vice-champions d'Afrique viennent quand même de loin.
Oui, bien évidemment. Et le premier enseignement, et j'allais dire, c'est bien sûr ce zéro pointé enregistré par les cotonculteurs de Garoua qui sont en dessous du niveau affiché. Et cette saison, ce qu'on retient le plus, c'est la qualification in extremis du géant du Caire à l'aller, le club le plus titré du continent. Sinon, pour le reste, on remarque la présence de deux clubs algériens, l'USM Alger et bien sûr le CR Belouizdad. C'est une... Bon, ça n'arrive pas souvent. L'espérance, le vieux de la vieille, qui est toujours présente pour les quarts de finale. Le Mamelodi Sundowns depuis son titre, son premier sacre en Ligue des Champions, essaie toujours de garder le cap, puisque ça fera pratiquement la huitième qualification pour les quarts de finale, vous imaginez. Donc, on aura les grands du continent. L'invité surprise pour moi, c'est bien sûr les Tanzaniens de Simba. Le football des clubs de la Tanzanie commence pas à émerger sur le continent avec de gros moyens qui ont été mis dans ce championnat. On a vu également une Africain en coup de la CAF. Le Simba, champion de la Tanzanie, s'est bien comporté en sortant bien sûr les Guinéens de Oroya. Bref, on aura de très belles affiches en quart de finale, dont le tirage de sort aura lieu mercredi prochain, Yacouba.
Et donc, je le disais, les Soudanais d'Al-Hilal et les Camerounais de Coton Sport de Garoua sont out dans ce groupe A. Coton Sport qui termine, Élisée le disait, cette phase de poule avec zéro pointé en 6 journées. Jules, c'est quand même inquiétant pour ce club camerounais.
Flagrante. Six matchs, 6 défaites, un goal à virage significatif. Et surtout, une très grande différence de niveau avec ses adversaires de poule qui sont l'Ogre El Ahly qui a récupéré et son statut d'ossature et de l'équipe nationale égyptienne et de fournisseur de grands talents à ce niveau et la Coupe du Monde des clubs qui l'a vu jouer les demi-finales a été pour quelque chose. Nous avons eu Mamelodi Sundowns qui est aussi une écurie de l'Afrique du Sud qui est en pleine ascension, elle aussi, au niveau du football. Mais même les Soudanais de Al-Hilal n'étaient pas en reste puisqu'ils ont recruté un stratège comme Ibengue cette année et ont mis en place une équipe qui avait une qualité supérieure face à tout ce beau monde. Coton Club est venu comme un simple représentant d'un championnat moyen africain sans aucune autre adaptation à ce niveau. Manque de volume de jeu, manque de créativité, absence de joueurs décisifs et coaching peu efficace. Or, la logique élémentaire veut que pour réaliser un exploit, qu'on s'en donne les moyens.
Voilà, qui est bien dit. Dans le groupe A, le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, termine premier après sa nette victoire 3-0 sur les Algériens de la JS Kabylie. On écoute Juan Carlos Garrido, coach du Wydad, satisfait du parcours de son équipe dans cette phase de poule.
Je suis très satisfait avec le parcours de l'équipe, avec les entraînements, avec le travail, avec l'attitude de chaque personne. Il y a une équipe, vraiment grande équipe, un vraiment grand effectif. Le plus important, que le résultat donne la confirmation que l'effectif travaille bien, qu'il y a la qualité. Et toujours, bien sûr, qu'il y a beaucoup de matchs très difficiles, beaucoup de matchs très importants. Le grand club comme Guidat se demande gagner toujours, se demande le trophée et se demande la victoire toujours. Normal. Et nous devons accepter ça.
Juan Carlos Garrido, coach du Wydad de Casablanca en face. Malgré leur défaite, les Algériens de la JS Kabylie sont qualifiés pour les quarts. Miloud Hamdi, coach de la JS Kabylie.
On est là, on est heureux d'être là en quart de finale de Ligue des Champions. On arrive et on vient de très très loin. Notre objectif principal, je le répète, c'est le maintien en Ligue 1. Peut-être qu'aujourd'hui, si on avait battu le Wydad ici, devant leur public, ou peut-être que si on avait fait un très très gros match et on aurait pris la première place grâce à un match nul.
Miloud Hamdi, coach de la JS Kabylie, des propos recueillis par Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca. L'autre club de Casa, le Raja, finit leader invaincu du groupe C après avoir dominé 3-1 les Tanzaniens de Simba. Le Maroc place donc deux clubs en quart de finale. Analyse avec Amine Birouk.
C'est total dans cette phase de groupe concernant les deux clubs casablancais. En Champions League, Casablanca est devenu un bastion fort et le complexe Mohamed V un fief quasiment imprenable. Preuve en est la victoire de l'équipe du Wydad contre la JSK 3-0. Les Rouges et Blancs étaient obligés de l'emporter pour finir en pole position. Et face à une formation algérienne attentiste, le Wydad a mis une quarantaine de minutes avant de décrypter un peu les failles de la défense adverse. Ça a été fait par le Sénégalais Sambou qui a d'ailleurs inscrit un doublé. Et en toute fin de match, le revenant Moutarji, blessé il y a 3 mois et qui reprenait la compétition, inscrivait un coup franc subtil, un mélange de puissance et de finesse pour donner une victoire qui permet au Wydad de finir en tête de son groupe et donc d'avoir le privilège de recevoir à domicile lors du match de quart de finale retour. Idem pour le Raja, c'était même plus une formalité pour le Raja face à Simba avec cette victoire sur le score de 3-1. Les Casablancais battent quasiment tous les records des clubs marocains en phase de groupe avec 16 points sur 18 possibles, 17 buts marqués, 3 concédés et surtout Hamza Khaba qui bat le record des joueurs marocains en phase de groupe. Il a inscrit 5 buts, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Désormais, les deux clubs attendent avec impatience et sérénité les noms de leurs adversaires. Ils auront l'avantage de jouer le retour à domicile. Mais attention, ils ne partiront pas favoris car s'ils se retrouvent par malheur face à l'équipe d'El Ahly, ils auront un adversaire redoutable dont il faudra énormément se méfier.
L'Espérance de Tunis termine en tête de la poule D malgré son nul 0-0 à domicile face aux Algériens du CRB Louizdad. Les deux sont tout de même qualifiés pour les quarts. En résumé, les qualifiés donc en Ligue des Champions pour les quarts sont le Wydad et le Raja de Casablanca, la JS Kabylie, l'Espérance de Tunis, le CRB Louizdad, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, Al Ahly d'Égypte et les Tanzaniens de Simba SC. Amdine Si nous a rejoint. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci Amdine. Alors, le constat, il est clair. Hein, comme depuis ces dernières années, les clubs du nord du continent dominent la Ligue des Champions avec 6 formations sur 8 placées en quart.
Tout à fait Yacouba. Cela prouve que le football de cette partie du continent africain marche bien parce qu'ils ont plus de moyens que les autres. C'est pourquoi le Maroc et l'Algérie ont réussi à planter deux clubs pour ces quarts de finale. Mais comme l'a dit Élisée, moi je mise un peu sur le petit poussé. Je vous parlais des Tanzaniens de Simba qui ont réussi quand même à se qualifier au nez et à la barbe d'une équipe comme le Oréa de Conakry, puisque c'est l'Oréa qu'on attendait. Mais les Tanzaniens de Simba qui, et le football tanzanien qui commence à mettre les moyens et ça commence à porter ses fruits. Pour vous rappeler simplement que les Tanzaniens, il y a très longtemps, ils ont déjà joué une demi-finale en Ligue des Champions, c'était en 1974. Je pense qu'ils feront tout pour essayer de rééduquer cet exploit, mais ce sera très difficile, comme vous l'avez dit. Ces quarts de finale sont dominés par vraiment des clubs maghrébins, des clubs très puissants qui ont beaucoup de moyens, qui recrutent les plus beaux joueurs de l'Afrique subsaharienne. Donc on aura droit quand même à des quarts de finale de feu, Yacouba.
Dénouement également en Coupe CAF avec l'attribution le week-end des deux derniers tickets à prendre pour les quarts de finale. L'un est allé à l'USM Alger qui a corrigé les Libyens d'Al Akhdar 4-1 dans le groupe A. Ce succès permet aux Algériens de conforter leur deuxième place devant les Congolais de Loupopo, battu 3-2 par le leader Marumo Galent d'Afrique du Sud. Élisée, est-ce un classement attendu dans ce groupe A?
Bien évidemment, Loupopo quand même croyait à la victoire en temps devant les Sud-Africains de Marumut, qui un club qui ne commence pas à se faire révéler sur le continent, et un club qui est en train d'empêcher les Orlando Pirates de revenir sur le continent. Bon bref, je disais, Loupopo qui quand même avait la chance de prendre l'avantage au score et en temps menait même les Sud-Africains 2-1. Mais c'était sans compter sur la détermination des Algériens qui, quand même, ont tout mis pour battre les Libyens. Donc, logiquement, on pouvait s'attendre à ce score, puisque l'USM Alger, qui était en train de lutter pour cette deuxième place face aux Congolais, recevait à domicile, alors que les Congolais étaient en déplacement en Afrique du Sud. C'était quasiment difficile pour les cheminots d'aller chercher une qualification à l'extérieur, sachant bien sûr que le club rival avec qui il luttait quand même, j'allais dire, la deuxième place recevait à domicile. Donc, logiquement, ce classement ne surprend quelqu'un, personne, j'allais dire. Donc, c'est un classement logique qui voit quand même les Sud-Africains terminer en tête devant les Algériens.
Le second ticket s'est joué dans la poule C et a été arraché par Pyramide FC qui est sorti vainqueur du duel égyptien face à Futur FC 2-1. L'autre match de cette poule a fini par un score d'un but partout entre l'AS Far de Rabat déjà qualifié et les Togolais de l'ASCO de Kara. Analyse de la rencontre et des perspectives de Far en quart de finale avec Amin Birouk.
La douleur est dans la difficulté. Voilà le résumé du match entre l'AS Kara et l'AS Far. Les militaires avaient besoin d'un point pour pouvoir composter leur ticket pour les quarts de finale. Ça a été fait de manière plus compliquée que prévu, puisque le club marocain était mené au score jusqu'à la 40e minute et l'égalisation de Borges. Dire donc qu'ils étaient à un moment de la compétition éliminés, personne ne pouvait l'imaginer, mais les derniers soubresauts dans ce groupe, avec la victoire sur tapis vert de Futur contre le club togolais, avaient un peu chamboulé la donne. Et à un moment du match, la défaite momentanée contre le club togolais et la victoire de Pyramids contre Futur montraient la difficulté, surtout comment les militaires s'étaient un peu compliqué la tâche. Il a fallu donc l'égalisation de Borges pour que tout rentre dans l'ordre et qu'il puisse passer automatiquement de la troisième à la première place. Voilà donc une bonne chose de faite pour l'équipe des Phares, qui n'avait plus mis les pieds en quart de finale de la Coupe de la CAF depuis la saison 2005-2006, année où il s'était incliné en finale contre le club sportif le Sfaxien. Les Phares vont devoir donc attendre le nom de leur rival mercredi. Ils auront l'avantage de jouer le retour devant leur public à Rabat. On aura soit l'équipe de River United du Nigeria, soit deux clubs maghrébins, à savoir l'US Monastir et l'USM Alger, avec une petite préférence pour avoir sondé les joueurs et le staff technique des militaires pour l'équipe nigérienne de River United.
Pour le coach de face, son équipe a souffert dans cette dernière rencontre de poule. On l'écoute.
On s'attendait à un match difficile, avec un terrain difficile, des conditions météo difficiles, l'humidité, la chaleur. Donc je suis soulagé parce que voilà, on fait un match nul. Et par rapport au match aller, les conditions étaient complètement différentes. D'autant plus que l'équipe fait le ramadan, donc c'est aussi difficile pour eux. Et je tiens à féliciter les joueurs parce qu'ils ont été au bout d'eux-mêmes pour tenir le résultat et avoir cette qualification qui en même temps nous donne la première place du groupe puisque les Pyramides ont gagné, donc on fait d'une pierre deux coups.
Fernando da Cruz, coach de l'ASFA, des propos recueillis par Amin Birouk, notre correspondant à Casablanca. Dans les autres groupes déjà qualifiés, l'ASEC Mimosa d'Abidjan termine en tête de la poule B. Après sa victoire 1-0 devant les Nigériens du Roavest United, les Ivoiriens comptent 13 points, soit 3 de plus que leurs adversaires, les Nigériens, eux aussi qualifiés. Amdine, après avoir peiné quand même en campagne africaine ces dernières années, l'ASEC semble être de retour.
Oui, l'ASEC est de retour puisqu'il fallait être leader dans ce groupe B, et l'ASEC l'a fait de fort dernière manière parce que terminer à la tête de ce groupe B avec 13 points devant les Nigériens, il fallait le faire et ils l'ont fait. L'ASEC, c'est vrai que l'objectif c'est
d'essayer de s'imposer en Ligue africaine des champions, mais il n'arrive pas à le faire. Et à défaut de ce qu'on voit, on se contente de ce qu'on a, de ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Ils ont assuré pour ces phases de groupe de la Coupe de la CAF. Maintenant, l'objectif, c'est aller le plus loin possible. Et je pense qu'ils ont les armes pour le faire, Yacouba.
Dans le groupe D, l'US Monastir et les Young Africans partagent la première place avec 13 points chacun après leur succès respectif 2-1 face à l'AS Real de Bamako et 1-0 sur le terrain du tout-puissant Mazembe classé dernier. C'est quand même le grand TP. Jules, dans ce groupe, c'est surtout la position des Congolais qui suscite des interrogations. Nous sommes en Coupe CAF, pas en Ligue des Champions.
C'est sûr que Mazembe, cette saison, a atteint le fond. Le club connaît la mésaventure qui arrive à toutes les équipes qui dépendent étroitement d'un mécène. Et tout le monde sait que le renouveau d'Englebert Mazembe a été en grande partie l'œuvre de l'emblématique président Katumbi. Mais dès qu'il a eu des ennuis politiques, l'équipe a reçu un coup et son caractère professionnel s'est liquéfié. Les joueurs sont partis et l'équipe n'est plus attractive. Et donc, finalement, Mazembe a atteint le fond, comme je l'ai dit. Mais on sait aussi qu'un adage nous rappelle que les grandes équipes ne meurent jamais. Nous espérons que ce grand Afrique retrouvera sa place.
C'est tout le mal qu'on souhaite donc au tout-puissant Mazembe. En somme, les qualifiés pour les quarts de finale en Coupe CAF sont Pyramide FC d'Égypte, l'USM Alger, l'AS Far Club du Maroc, l'US Monastir de la Tunisie, Rovers United du Nigeria, l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Marumo Gallants d'Afrique du Sud et Young Africans de la Tanzanie. Les tirages au sort pour les oppositions des quarts de finale en Ligue des Champions et en Coupe CAF auront lieu ce mercredi 5 avril. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez VOA Afrique. L'émission revient dans quelques secondes. Qui va organiser la CAN 2025? 4 candidatures, 5 pays en lice pour remplacer la Guinée. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Zambie et du duo Nigeria-Bénin. La CAF a engagé le cabinet international Roland Berger, Stratégie Consult, pour évaluer les différentes candidatures. Élisée, le cabinet a débuté ce soir l'étape béninoise.
Bien évidemment, Yacouba, cette délégation a pris part à Porte-Nouveau avant d'aller à Cotonou, deux villes choisies par le Bénin. Et inscrite dans le dossier de candidature pour cette CAN de 2025 retirée et à la Guinée, les stades Charles de Gaulle et Général Mathieu Kérékou de Cotonou ont été inspectés en attendant de visiter d'autres infrastructures. Et Yacouba, il faut dire que cette visite sera clôturée par une séance de travail en présence des membres du ministère des Sports et de la Fédération Binoise de Football. Et à entendre cet après-midi le deuxième vice-président de la Fédération Binoise de Football, Magloire Oké, qui est allé chercher la délégation, eh bien, il est confiant de ce que le Bénin va proposer. Le stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau et celui de Cotonou, les infrastructures hôtelières, routières, et donc il est confiant, il a dit que le Bénin quand même ont rempli les conditions et que lui n'est pas sous pression et que il sait que le Nigeria sera de même, si ce n'est pas pour rien. Les deux pays se sont associés pour mettre en place un dossier et qu'il a pris confiance et que le Bénin et le Nigeria vont créer la sensation, c'est bien sûr. Or, ces deux pays seront retenus pour organiser cette compétition qui aura lieu en 2025.
Élisée, on vous souhaite simplement d'avoir cette CAN 2025 là chez vous au Bénin. Et avant justement votre pays, ça a été les tours de l'Algérie et du Maroc. Et justement, Amine Birouk nous parle de l'étape marocaine.
Voilà un processus qui devait être lancé beaucoup plus tôt. On se rappelle de la feuille de route de la CAF qui indiquait que ces visites d'inspection devaient avoir lieu au mois de janvier. Or, l'organisation fêtière du football africain préférait sursoir à ce process, de façon à ce qu'il ait lieu pendant la trêve internationale et durant la semaine qui suivait cette trêve, avec des étapes tout d'abord au Nigeria, au Bénin, puis au Maroc, en marge de la rencontre entre les Lions d'Atlas et la Seleção, puis en Algérie et enfin en Zambie. Et les seules images qui ont filtré concernent l'étape algérienne avec des soubresauts dans la presse de ce pays. Ce qui est certain, c'est que c'est un processus qui est indépendant, différent en tout cas de ce que faisait la CAF auparavant, puisque il garantit un minimum de transparence Il y aura donc un rapport technique avec des notations. Elles détermineront par ordre de mérite la qualité des infrastructures, c'est-à-dire des stades d'entraînement, des hôtels, des routes, des aéroports. Et cela donnera un minimum de visibilité à ces quatre candidatures et donnera, je dirais, des indications aux membres du comité exécutif de la CAF pour qu'ils puissent se déterminer le plus tôt possible. Maintenant, reste à savoir quand aura lieu le vote et est-ce qu'il aura lieu en marge du congrès de Cotonou, prévu au mois de juillet prochain. Cela supposerait que ça ait lieu dans un pays qui est partie prenante à ces candidatures, ou que la CAF préfère que ça ait lieu lors d'une réunion ordinaire au Caire, dans son siège. Ce qui est certain, c'est que les spéculations vont monter, et dès que le rapport d'inspection sera rendu public, il y aura des spéculations, des pronostics, mais a priori, tout reste à décider, même si la tendance est toujours en faveur de la candidature marocaine.
Voilà, la bataille est bien engagée. Alors, Jules, avant c'était une délégation de la CAF qui évaluait les infrastructures justement des pays candidats. Maintenant, c'est un cabinet hors CAF. Pensez-vous, comme Amine, hein, que cela est gage de transparence dans le processus d'attribution?
Oui, bien sûr, mais surtout qu'on va insister exclusivement sur les arguments techniques pour désigner, disons que le futur pays hôte. Mais sur ce terrain, il est clair que le Maroc a une longueur d'avance nette, mais il ne faudrait pas que le choix du Maroc, par exemple, le pousse à s'endormir, car si jamais le Maroc est choisi, et il y aura un piège, il aura la responsabilité d'adoucir ses relations avec tous les pays qui auraient pu être frustrés, et ça, c'est une autre paire de manches.
Tous les pays, y compris justement l'Algérie. Amdine, l'éternelle rivalité entre l'Algérie et le Maroc se poursuit jusque dans ce processus-là.
Ah oui, il faut le dire. Mais pour être sérieux, il faut dire que cette candidature, cette CAN se jouera entre le Maroc et l'Algérie. Ça, c'est vraiment clair.
Vous excluez le Bénin d'Élisée Mpatine?
Hein?
Vous excluez le Bénin d'Élisée Mpatine?
Ah oui, le Bénin n'est pas encore prêt pour organiser une Coupe d'Afrique. La messe du grand football, la messe du football continental, c'est pas un jeu. Moi, je pense que le Maroc et l'Algérie, ça se jouera entre ces deux pays. Mais comme Amine l'a dit, le Maroc est un sérieux prétendant, mais aussi l'Algérie. L'Algérie a démontré avec la dernière édition du CHAN qui s'est tenue là-bas, ils ont démontré qu'ils pouvaient bel et bien organiser cette CAN. D'ailleurs, cette édition du CHAN a été la meilleure de tous les temps. Donc, ils ont vraiment séduit tout le monde avec cette organisation. Maintenant, comme vous dites, la rivalité, elle est extraordinaire, elle est grande, mais ça se jouera entre ces deux pays, puisque que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, ils détiennent vraiment des infrastructures sportives, les pays sont vraiment organisés, les hôtels, les stades, les terrains d'entraînement, tout est nickel. En tout cas, pour moi, ça se jouera entre ces deux pays. Et l'Algérie, avec ce qu'ils ont démontré avec le CHAN, bon, je pense qu'ils vont vraiment donner du fil au retordre à ces Marocains.
Justement, l'Algérie qui a organisé, qui a accueilli, disons, le CHAN cette année et qui n'a pas permis peut-être au Maroc d'atterrir sur son sol par un vol direct. On se rappelle aussi, cela avait fait grand bruit et le Maroc s'est finalement retiré de ce CHAN-là. Et au même moment, il faut le rappeler aussi, le Maroc a accueilli la Coupe du Monde des clubs. Et selon le Royaume Chérifien, bien sûr, c'était l'une aussi des meilleures compétitions. Et donc, bras de fer engagé donc entre l'Algérie et le Maroc, mais aussi, on n'oublie pas, la Zambie. Et puis, le duo entre le Bénin et le Nigeria pour accueillir cette CAN 2025. En attendant justement l'issue de cette bataille pour accueillir la CAN 2025, retirée à la Guinée, on va le rappeler également. Les dates officielles de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ont été confirmées par la CAF. Le coup d'envoi de la fête du football africain va être donné le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara de Bimpé à Abidjan. Et puis la finale de cette 34e édition du tournoi aura lieu le 11 février. Voilà, c'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Mpatine, Amine Birouk, le doyen Jules Valentin Ngoué et Amdine Sy. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Joselle Morissin. Je suis Yacouba Ouidraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, puisqu'on parlait d'Abidjan, écoutez, une nouvelle édition du journal, c'est tout de suite avec Jean-Roger Billon.